Bonsoir, comment allez-vous ? Stéphanie Bondat et Lorrain et Roselyne Pendule écrivent aux éditions Bonhomme de Chemin des livres sur le métro parisien. On ne pense pas, quand on prend le métro, qu'on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Comment tout ça a-t-il commencé ? D'abord, bien que les Parisiens soient les gens les plus intelligents du monde, comme chacun sait, les habitants de Londres, New York, Chicago, Budapest ont eu le métro avant eux. C'est l'exposition universelle de 1900 qui a apporté à Paris les gares de Lyon, d'Orsay, le Grand Palais, le pont Alexandre III et le métro. Et c'est là que la prouesse commence. Creuser d'abord. Mais creuser comment ? Au début avec d'énormes machines. Puis les ouvriers passent à la méthode des galeries boisées comme dans les mines. Ensuite, que faire de la terre ? Elle doit quitter Paris, elle va créer des collines artificielles en banlieue. Il faut aussi arriver à creuser, dans l'eau par exemple, ce n'est pas commode. Et puis creuser où ? Pas dans les canalisations de gaz, d'eau ou d'électricité, ni dans les égouts qui passent aussi dans le sous-sol. Ces livres nous parlent aussi des noms des stations. Pourquoi Sablon ? Parce qu'il y avait du sable qui a servi à construire Paris, comme la station Marais. Cette zone, au 8e siècle, était recouverte d'eau. Voilà, le métro fait voyager beaucoup plus loin qu'on ne le pense.
Bonsoir Noël, je m'appelle Marjorie, j'ai 8 ans. Je suis en CE2. Je voudrais savoir à quelle vitesse roule le métro parisien. Merci.
Merci à toi Marjorie. Clive Lamming, votre livre s'appelle Le secret des trains. Il est à la librairie Vuibert. Mais le métro, c'est un train ?
Le métro est un train. C'est même ce qu'on appelle d'ailleurs un chemin de fer d'intérêt local.
Ah
comme les petits trains dans les campagnes, parce que c'est un train municipal qui a été donc fait par les Parisiens et pour les Parisiens en principe. Et alors, le métro, à quelle vitesse roule-t-il ? Eh bien, aujourd'hui, si on parle de vitesse de pointe, les rames MF77 qui roulent sur la ligne 13 peuvent rouler à plus de 70 km/h, par exemple entre Saint-Lazare et Miroménil, où il y a une grande interstation. L'interstation, c'est la distance entre deux stations. Donc ça peut aller très vite, un métro, 70 km/h, et ça peut aussi les atteindre sur la ligne 8, du côté de Ballard, Créteil, on est à la campagne, donc il y a des grands espaces, il peut rouler vite. La vitesse moyenne, ce qui est une toute autre paire de manches, peut se situer entre 20 et 30 km/h, ce qui, à mon avis, est déjà très correct. La vitesse moyenne, c'est-à-dire c'est la moyenne qu'on fait réellement, vous savez, quand on a attendu son métro, quand on descend, quand on marche, enfin, vous savez, on passe beaucoup de temps à attendre dans le métro, à prendre les couloirs. Il y a à peu près 150 km de couloirs dans le métro parisien, il y a 300 km de ligne. C'est-à-dire qu'il faut donc beaucoup marcher. Mais la vitesse moyenne est quand même assez élevée, c'est de l'ordre de 20, 25, 30 km/h. En voiture, vous ne les ferez jamais dans Paris, en autobus non plus. Donc
c'est
le métro reste quand même le moyen de transport le plus rapide. Pour venir vous voir aujourd'hui, je suis venu depuis le 19e, j'ai donc fait une bonne partie du tour de Paris, j'ai mis 35 minutes. J'étais venu en bus, j'aurais compté une heure et encore je suis arrivé en retard. Et j'étais venu en voiture, je suis encore en train de chercher à garer que l'émission est déjà finie.
Et le premier métro
Le premier métro, donc c'est la ligne 1 qui a été inaugurée en 1900 pour l'exposition universelle. Des petites rames en bois, des voitures à deux essieux, ça roulait beaucoup moins vite. Ça faisait du 10-12 km/h, c'était moins puissant, ça n'avait pas les accélérations que ça a aujourd'hui.
Mais c'était quand même un bon gain de temps.
C'était un gain de temps considérable parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autobus, c'était des omnibus à chevaux, donc ça n'allait quand même pas très vite, ou alors carrément on se déplaçait à pied.
Et puis il y avait des embouteillages avec les voitures à cheval.
Il y avait beaucoup d'embouteillages, il y avait des carrefours. Paris était une ville complètement embouteillée vers 1880, beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Notre ami Clive Lamming est historien, mais vous l'avez deviné, trainophile. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Le principe des petits bateaux, le connaissez-vous ? Des enfants téléphonent et posent des questions sur notre répondeur 01 56 40 43 57. Et nous, ensuite, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi des fois on ment. Merci, au revoir.
Bonsoir Charlie, pourquoi des fois on ment ? Denis Marquet, Nos enfants sont des merveilles, édité chez Nil, c'est le titre de votre dernier livre. Vous êtes écrivain, vous êtes philosophe et thérapeute.
C'est quelque chose qu'on entend souvent, que le mensonge est naturel chez un enfant, et beaucoup de psy, d'experts l'affirment. Moi, je crois pas. Je crois que le mensonge n'est pas naturel chez un enfant. Parce que l'enfant a un besoin premier qui est d'une relation de confiance avec ses parents. Et il sait très bien que s'il ment, il va entamer cette relation de confiance. Donc, quand un enfant ment, comme il n'a aucun intérêt à mentir, c'est qu'il a une autre raison. Une raison qui fait qu'il est prêt à mettre en péril la relation de confiance parce qu'il a un besoin plus pressant que ça. Or, ça l'angoisse de mettre en péril la relation de confiance. Donc c'est souvent qu'il y a une angoisse plus grande derrière qui le pousse à mentir. Pourquoi un enfant ment-il ? Faut essayer de chercher la raison. Quand on est un parent, c'est très important de se poser cette question-là.
Avant de dire « ça ne se fait pas ».
C'est important aussi de dire « ça ne se fait pas ». De montrer à l'enfant que le mensonge met en péril la relation de confiance. Mais après, il faut se demander pourquoi il en est arrivé là, quelle est l'angoisse derrière lui qui lui permet d'accepter de mettre en péril la relation de confiance. Alors, on peut donner quelques exemples de raisons, hein. Il peut y en avoir beaucoup. Un enfant, par exemple, a besoin d'intimité. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de l'intrusion par rapport à l'enfant. On peut lui poser toutes les questions, mais il ne faut pas lui laisser penser qu'il a à répondre. Et du coup, l'intrusion, le manque de respect de son intimité peut le pousser à cacher des choses et parfois par le mensonge pour préserver son intimité. Une autre raison, c'est que les adultes eux-mêmes mentent à l'enfant. Beaucoup d'adultes pensent que le but de l'éducation, c'est d'obtenir un certain comportement de l'enfant et que pour cela, tous les moyens sont bons, y compris la manipulation, y compris le mensonge. Quand on ment à un enfant, on lui envoie le message que le mensonge, c'est quelque chose d'envisageable et lui-même peut devenir menteur. Donc on ne devrait jamais mentir à un enfant. Ça ne veut pas dire que l'adulte lui-même a un devoir de transparence. On peut très bien ne pas répondre à une question de l'enfant en lui disant « c'est mon intimité ». Il y a une autre cause de mensonge chez l'enfant, c'est une stratégie parentale très classique malheureusement qui s'adresse surtout aux tout-petits et qui consiste à faire croire aux tout-petits que le parent sait tout. L'enfant, il n'est pas idiot, il sent les choses, il sent la vérité, même si son intelligence est infraverbale, pas encore cognitive mais plutôt sensorielle, bah, il sent que c'est quand même difficile à croire que le parent sait tout, donc il va essayer de le vérifier. Et quel est le meilleur moyen a-t-il de vérifier que le parent ne sait pas tout que de lui mentir? Si le parent s'en aperçoit pas, évidemment, ça veut dire qu'il ne sait pas tout. Seulement, le problème, c'est qu'après, c'est l'enfant lui-même qui peut tomber dans cette espèce de toute-puissance qui consiste à jouir du fait de pouvoir cacher plein de choses à ses parents. Et c'est ainsi qu'il risque de devenir menteur. Il y a encore une cause importante de mensonge qui est paradoxale, hein, c'est le soupçon. Quand les parents soupçonnent leur enfant de mentir, ils leur envoient le message que mentir est attendu, quasi normal. Ça peut inciter l'enfant à mentir. Jusqu'à preuve du contraire, il faudrait toujours faire confiance à son enfant. Et il y a une dernière cause aussi qui est importante, c'est quand l'enfant se sent menacé quelque part. Il va mentir pour dissimuler une bêtise qu'il a faite ou une infraction à une loi. Normalement, une sanction juste n'est pas angoissante pour l'enfant. Au contraire, ça le structure et ça lui fait du bien. Donc si l'enfant ment pour dissimuler une bêtise, c'est qu'il a peur d'autre chose que de la sanction. Il peut avoir peur de ne pas être aimé, d'être rejeté. Et ça, bien sûr, l'angoisse de ne pas être aimé est plus forte que l'angoisse de perdre la confiance de ses parents. Et c'est pour ça qu'éventuellement, il va pouvoir mentir parce qu'il pense qu'on l'aimera pas si on sait qu'il a fait telle bêtise. Et dans ce cas-là, c'est que dans la relation de parent-enfant, il y a un dysfonctionnement, c'est que l'enfant n'a pas reçu le message qu'il était aimé quoi qu'il fasse. Et comme la relation enfant-parent est la matrice des futures relations de l'enfant, ça peut abîmer sa vie relationnelle plus tard. On peut concevoir et on peut désirer un rapport avec ses enfants où il y a une pleine et entière confiance parce qu'on sait que les enfants disent la vérité.
Denis Marquet, je vous le rappelle, philosophe, écrivain et thérapeute. Et à ce propos, j'aimerais vous signaler que le Philosophie Magazine de ce mois-ci est consacré, entre autres, à l'enfance.
Dans l'œsophage, un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Il disait, petite tête, ôte-toi de la cmimette, je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Sauvage ou pirate, on se tire dans les pattes et le moins malin peut crever de faim. Soldat ou artiste, on est tous des tristes, ciré malheur à qui manque d'estomac. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Dans ma garçonnière, misère de misère, la femme du voisin se fait couler un bain. Quand la mienne se déhanche, j'ai le cœur qui flanche de voir les autres tudieux la bouffée des yeux. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir, je ferai des orphelines, et par la racine, je vous ferai les orties, et les pissenlits, mambo, miam, miam, mambo, miam, miam, mambo, miam, miam, mambo, miam, miam, miam.
La chanson s'appelle Mambo Miam Miam et le chanteur, Serge Gainsbourg.
Les petits bateaux sur France Inter.
Daniel Lincot est chimiste, spécialiste de l'énergie solaire, directeur de recherche au CNRS. Il a obtenu la médaille d'argent et il est enseignant à l'École nationale supérieure de chimie de Paris.
Bonjour, je m'appelle Léa. J'ai 6 ans, je voudrais savoir comment marchent les panneaux solaires. Merci.
Merci Lozard pour ta question. En fait, le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie de la lumière. Et la lumière, c'est de l'énergie. Alors pour s'en convaincre, c'est assez facile. Si tu restes au soleil ou si tu laisses un morceau d'un bout de métal en plein soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe, tu peux même pas le prendre. Ça veut dire qu'en fait, grâce à la lumière, il fait très chaud. Et cette énergie lumineuse, elle s'est transformée en énergie, la chaleur. Et on a trouvé que c'était une énergie lumineuse, c'était des petites particules d'énergie dont tu as peut-être entendu parler, qui s'appellent des photons. Et les photons, il y en a des bleus, des verts, des rouges. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ces photons, pourquoi est-ce qu'ils donnent de la chaleur? C'est quand ils sont arrêtés par de la matière, par ton pull, par un métal, eh bien, ils perdent leur énergie et ils donnent de l'énergie qui est de la chaleur.
Alors,
ils
lâchent de l'énergie.
Ils lâchent de l'énergie. Ils lâchent son énergie. Ils rendent son énergie. Tu sais que la matière, elle est composée d'atomes. Et dans les atomes, il y a des noyaux. Et autour des noyaux, il y a des électrons qui tournent. Et en fait, le photon, ce qui va se passer, c'est qu'il est arrêté en fait par les électrons. Et quand les électrons attrapent les photons, et là, il y a une image qui est très intéressante, c'est que finalement, c'est un peu comme un gardien de foot. Quand on tire un but, le gardien, il arrive à attraper le ballon. Oui. Et en même temps, souvent, il recule.
Ah oui. Et d'ailleurs,
à cause
même
de
parfois,
la force du ballon.
Parfois même, on marque contre son camp. Comme
même
ça.
Parfois, il rentre. Voilà. Oui. Donc, en fait, ça veut dire que le gardien, l'énergie du ballon, il l'a récupéré et il l'a tellement récupéré. Vous voyez? Donc, en fait, les électrons de la matière, ils attrapent les photons. Et qu'est-ce que fait un électron quand il est excité? On dit qu'il est excité dans ce cas-là. Eh bien, finalement, il va se mettre à une énergie électrique plus grande. Donc, en fait, l'électron est un peu comme un gardien de but. Il attrape les photons. Et il se met à un potentiel électrique plus grand qui lui permet finalement d'avoir de l'énergie électrique. Et après, il est en l'air, il est un peu suspendu en l'air, il va revenir à son niveau de départ où il était tranquille.
Mais chargé d'énergie.
Et il va donner l'énergie cette fois-ci, non pas sous forme de chaleur, mais sous forme d'électricité. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, l'électron, quand il a attrapé le ballon, le photon, il est capable de sortir dans un circuit extérieur. Et ce qui est extraordinaire,
et c'est
finalement
le soleil qui lui a filé le ballon.
Et ces petits ballons-là, c'est des photons qui sont envoyés par le soleil. C'est-à-dire que le soleil nous envoie une quantité de lumière extraordinaire, beaucoup d'énergie. Et grâce à ces panneaux solaires, les électrons sont capables de sortir. Et qu'est-ce que ça donne un électron qui se promène dans un fil de cuivre? Ça donne du courant électrique. Et le courant avec un peu de tension, ça donne de l'énergie électrique. Et donc c'est comme ça que sont nés les panneaux solaires.
Mais ce que vous venez de décrire, Daniel Lincot, avec l'œil, ça se voit pas.
Ah bah si.
Ah bon?
Si, parce que quand vous voyez les cellules solaires, on en voit partout, des parc-mètres qui sont avec des petites cellules,
oui,
il y en a
sûr,
aussi
ouais.
Sur des calculettes des fois. Et bien ce qu'on voit quand on les regarde, souvent elles sont de couleur bleue, c'est du silicium, et bien on voit des toutes petites bandes blanches qui sont gravées à la surface. Si vous regardez bien, vous voyez des bandes blanches.
Ouais,
et bien ces bandes blanches, c'est comme une espèce de râteau à électrons. C'est des petits fils électriques, et les électrons qui arrivent à la surface parce qu'ils sortent du matériau, ils rentrent dans ces petits fils blancs, et c'est grâce à ces petits fils blancs qui finalement jouent le rôle de racines un petit peu, ils récupèrent l'électricité et ces petits fils blancs sortent à l'extérieur. C'est pour ça que vous voyez toujours deux fils qui sortent d'une cellule solaire. Et quand vous mettez une cellule plus une cellule plus une cellule, vous faites un module, vous les additionnez, vous ajoutez à chaque fois environ 0,6 volts. Donc en fait, c'est comme ça qu'on arrive à faire des panneaux solaires qui vont faire des milliers de volts, etc. On arrive aujourd'hui à atteindre, à récupérer pratiquement le cinquième de l'énergie, de la puissance lumineuse qui arrive par le soleil. 20% de rendement.
C'est beaucoup.
Ah oui, c'est beaucoup. Et dans les laboratoires, elles peuvent arriver à environ 40%, 45%.
Merci Daniel Linco. Alors, qu'y a-t-il de pire qu'une séance de devoir le soir après l'école? Une séance de démêlage de cheveux le matin avant l'école.
Bonjour, je m'appelle May. J'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi y a-t-il des nœuds dans les cheveux. Merci. Au revoir.
Et merci pour ta question, parce que c'est une question que nous sommes nombreuses à nous être posées. Vous qui avez des cheveux dans votre laboratoire, avec ou sans nœuds, peut-être même que vous en faites et que vous en défaites des nœuds dans les cheveux d'Delphine Triard, vous êtes responsable du laboratoire d'évaluation instrumentale capillaire.
Eh bien en fait, mais si tu regardes tes cheveux au microscope, tu pourras voir que le cheveu est recouvert d'écailles, de plusieurs couches d'écailles. Et en fait, ces écailles, quand elles sont bien régulièrement alignées, qu'elles sont placées les unes à côté des autres, elles vont être à la surface comme les écailles d'un poisson. Donc là, ça va bien se passer. Par contre, si ces écailles se soulèvent, cela va créer des points d'accroche qui vont faire que les cheveux vont s'accrocher les uns aux autres et former des nœuds. Imagine que quand tu te brosses les cheveux, donc tu les brosses de la racine à la pointe, donc dans le sens des écailles, s'il y a un bon état de surface de tes cheveux, le peigne va passer facilement dans tes cheveux. Par contre, si tu prends le peigne et que tu va te peigner à l'inverse, dans le sens inverse des écailles, c'est-à-dire tu vas les prendre de la pointe et remonter jusqu'à la racine, tu vas voir que là, ça va être beaucoup plus difficile de te peigner les cheveux. Mais imagine qu'au niveau des écailles de ton cheveu, tu vas les soulever progressivement et qui va faire que ben, les cheveux ils vont s'en mêler les uns aux autres. Tu peux aussi imaginer qu'à l'extrême, si tu fais ça sur tous tes cheveux, sur toute ta tête, eh ben, tu vas avoir plein de nœuds dans les cheveux et avoir ce qu'on appelait avoir les cheveux crêpés et pouvoir faire des coiffures complètement rigolotes.
Pour répondre à May, pourquoi il y a des nœuds dans les cheveux? Il y a des nœuds dans les cheveux parce qu'il y a des écailles. Quand elles sont soulevées, elles s'accrochent les unes dans les autres.
Exactement. Et elles se soulèvent en fait quand le cheveu s'abîme. Donc c'est quand le cheveu pousse, parce qu'il faut savoir que le cheveu pousse d'un centimètre par mois environ. Donc au fur et à mesure de la pousse du cheveu, il va subir des agressions. Donc les écailles, elles vont être abîmées de plus en plus. Donc plus le cheveu est long, plus ces écailles sont abîmées, plus on aura des points d'accroche et plus on aura des nœuds dans le cheveu.
Listen, seeing you got ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away.
C'était Passion Fruit, Drake sur France Inter, où vous écoutez Les Petits Bateaux. Vous savez, c'est l'émission où des savants répondent aux enfants.
Bonjour, je m'appelle Léo, et j'ai 6 ans, et je voudrais savoir comment les girafes dorment. Merci.
Bon,
Bonsoir Léo et merci pour cette question. Je n'ai jamais vu de ma vie de girafe se coucher. Peut-être que vous, oui, Brice Lefou, d'abord parce que vous êtes vétérinaire et ensuite parce que vous êtes le directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Et d'ailleurs, doit-elle se coucher pour dormir ? Léo, ton interrogation va nous tous nous servir.
Eh bien oui, elle se couche. Alors Léo a tout à fait raison de poser la question parce qu'on ne les voit pas souvent coucher, les adultes girafes. La girafe, au contraire, alors si je parle directement à Léo, Léo, donc lorsque tu dors, tu vas dormir très longtemps, presque 12 heures d'affilée. Et dans ces 12 heures d'affilée, tu vas avoir les yeux fermés, tu vas bouger dans ton sommeil, mais tu vas avoir les yeux fermés, et tu vas passer par différentes phases de sommeil, on appelle un sommeil léger et un sommeil profond. La girafe, elle ne peut pas faire ça, parce que c'est trop dangereux. Donc elle va dormir majoritairement la nuit, bien sûr, mais par phase de 15 minutes à 1 heure et demie maximum. Et dans une journée entière, donc une journée plus une nuit, avant le lendemain matin, elle n'aura dormi en tout et pour tout qu'entre 4 et 6 heures, pas plus, par petite phase. Elle peut dormir soit debout, alors pour ça elle va écarter les pattes à l'avant, écarter les pattes à l'arrière, le cou se baisse un petit peu, les yeux vont rester ouverts, et là elle est dans un sommeil léger. Elle va ensuite pouvoir se coucher aussi. Ça, c'est vraiment des fréquences assez courtes, mais elle en a besoin. Donc, elle se couche. Et si Léo a l'occasion de voir des vaches dans un champ, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il faut imaginer la vache avec un grand cou. Mais c'est la même façon de se coucher avec les pattes arrière sur le côté et les pattes avant repliées sur soi.
Et elle se relève, c'est ça que je trouve...
Elle se relève. Elle a absolument besoin du balancier de son cou pour se relever.
Elle lance la tête.
Elle lance la tête pour se relever parce qu'elle a besoin de se balancier pour justement dégager ses antérieurs, qui sont très très grands. Ses pattes avant, elles sont très très grandes. Et donc là, elle peut dormir donc soit sans poser sa tête sur son dos, elle est dans ce cas-là encore dans un sommeil léger, et quand elle a ses 15 minutes, pour un adulte, ses 15 minutes de sommeil très profond, là, elle va mettre sa tête sur son dos. D'accord. Et elle va fermer les yeux. Et là, elle dort profondément. Mais ça dure très peu de temps.
Et là, je pense qu'elle est justement vulnérable pour un prédateur.
Elle est vulnérable pour un prédateur et c'est pour ça qu'on les voit alterner. Dans le troupeau, pendant qu'il y en a qui font ça, d'autres sont debout et vigilent. Ils alternent. Donc ça a été étudié notamment dans les parcs zoologiques pour bien percevoir ce cycle, parce que c'est pas évident. Et chez les jeunes girafons, donc vous avez l'occasion de pouvoir en voir, notamment à Paris, il y en a. Chez les jeunes girafons, là on les voit déjà couchés beaucoup plus que les adultes, parce qu'ils dorment beaucoup plus.
Ah oui.
Et c'est comme chez l'être humain. Les enfants dorment plus longtemps, ils sont en phase de croissance, donc ils ont besoin de plus de sommeil. Les jeunes girafons aussi.
C'est qui le prédateur de la girafe ?
Alors le prédateur de la girafe principale... c'est le lion, la lionne en fait. Et après, les autres prédateurs peuvent aussi s'organiser, notamment les hyènes ou encore les léopards. Mais les léopards, ils chassent à l'affût. Ils vont vraiment essayer d'attraper que les petits et souvent les parents sont très vigilants. Le principal prédateur qui peut s'attaquer même à un adulte, c'est la lionne. Elle va s'accrocher en fait sur le torse de la girafe jusqu'à ce que la girafe tombe.
Mais pourquoi vous dites la lionne, le lion, il mange pas ?
Le lion ne chasse pas.
Le lion ne chasse pas. Quel est l'autre mammifère où le mâle ne s'occupe pas du ravitaillement de la famille? Je ne vois pas. À propos de la girafe, l'historien Éric Baratet raconte l'histoire passionnante de la girafe de Charles X dans son livre Biographie animale, édité au Seuil. Éric Baratet sera, avec Frédéric Lenoir, les invités d'État d'Esprit ce soir à 22h sur France Inter. Les petits bateaux, c'est terminé, mais pas complètement, puisque vous pouvez podcaster cette émission ou bien venir faire un tour sur notre site où vous trouverez, entre autres renseignements intéressants, les derniers ouvrages de nos invités. Merci à, par ordre alphabétique, Jean-Baptiste Audibert, Anne-Laure Cochet, Marjorie Devoucoux, Eliane Girard. Les dimanches suivants, nous céderons notre place à la soirée électorale de France Inter, mais pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.